Dans la collection Lire audio classique, Au-delà du principe de plaisir, de Sigmund Freud. Le principe de plaisir. La théorie psychanalytique admet sans réserve que l'évolution des processus psychiques est régie par le principe de plaisir. Autrement dit, nous croyons, en tant que psychanalystes, qu'elle est déclenchée chaque fois par une tension désagréable ou pénible et qu'elle s'effectue de façon à aboutir à une diminution de cette tension, c'est-à-dire à la substitution d'un état agréable à un état pénible. Cela équivaut à dire que nous introduisons dans la considération des processus psychiques que nous étudions le point de vue économique, et nous pensons qu'une description qui tient compte en même temps que du côté topique et dynamique des processus psychiques du facteur économique, représente la description la plus complète à laquelle nous puissions prétendre actuellement et mérite d'être qualifiée de métapsychologique. Peu nous importe de savoir si en établissant le principe de plaisir, nous nous rapprochons de tel ou tel système philosophique déterminé consacré par l'histoire. C'est en cherchant à décrire et à expliquer les faits de notre observation journalière que nous en arrivons à formuler de pareilles hypothèses spéculatives. Nous ne visons dans notre travail psychanalytique ni à la priorité ni à l'originalité. Et d'autre part, les raisons qui nous incitent à poser le principe en question sont tellement évidentes qu'il n'est guère possible de ne pas les apercevoir. Nous dirons cependant que nous ne marchanderons pas notre gratitude à toute théorie philosophique ou psychologique qui saurait nous dire ce que signifient exactement les sensations de plaisir et de déplaisir qui exercent sur nous une action si impérative. Il s'agit là de la région la plus obscure et la plus inaccessible de la vie psychique. Et comme nous ne pouvons pas nous soustraire à son appel, nous pensons que ce que nous pouvons faire de mieux et de formuler à son sujet une hypothèse aussi vague et générale que possible. Aussi, nous sommes-nous décidés à établir entre le plaisir et le déplaisir, d'une part la quantité d'énergie non liée que comporte la vie psychique, d'autre part certains rapports, en admettant que le déplaisir correspond à une augmentation et le plaisir à une diminution de cette quantité d'énergie. Ces rapports, nous ne les concevons pas sous la forme d'une simple corrélation entre l'intensité des sensations et les modifications auxquelles on les rattache. Et encore moins pensons-nous, car toutes nos expériences de psychophysiologie s'y opposent, à la proportionnalité directe. Il est probable que ce qui constitue le facteur décisif de la sensation, c'est le degré de diminution ou d'augmentation de la quantité d'énergie dans une fraction de temps donnée. Sous ce rapport, l'expérience pourrait nous fournir des données utiles, mais le psychanalyste doit se garder de se risquer dans ses travers tant qu'il n'aura pas à sa disposition des observations certaines et définies susceptibles de le guider. Nous ne pouvons cependant pas demeurer indifférents devant le fait qu'un savant aussi pénétrant que Fechner concevait le plaisir et le déplaisir d'une manière qui, dans ses traits essentiels, se rapproche de celle qui se dégage de nos recherches psychanalytiques. Dans un de ses opuscules, il a formulé sa conception de la manière suivante. Étant donné que les impulsions conscientes sont toujours accompagnées de plaisir ou de déplaisir, nous pouvons fort bien admettre qu'il existe également des rapports psychophysiques entre le plaisir et le déplaisir d'une part, et des états de stabilité et d'instabilité d'autre part, et nous prévaloir de ces rapports en faveur de l'hypothèse que nous développerons ailleurs, à savoir que tout mouvement psychophysique dépassant le seuil de la conscience est accompagné de plaisir pour autant qu'il se rapproche de la stabilité complète au-delà d'une certaine limite, et est accompagné de déplaisir pour autant qu'il se rapproche de l'instabilité complète toujours au-delà d'une certaine limite. Une certaine zone d'indifférence esthétique existant entre les deux, et qui peuvent être considérées comme les seuls qualificatifs du plaisir et du déplaisir. Les faits qui nous font assigner au principe de plaisir un rôle dominant dans la vie psychique trouvent leur expression dans l'hypothèse d'après laquelle l'appareil psychique aurait une tendance à maintenir à un étage aussi bas que possible, ou tout au moins à un niveau aussi constant que possible, la quantité d'excitation qu'il contient. C'est le principe de plaisir formulé dans des termes un peu différents. Car si l'appareil psychique cherche à maintenir sa quantité d'excitation à un niveau aussi bas que possible, il en résulte que tout ce qui est susceptible d'augmenter cette quantité ne peut être éprouvé que comme antifonctionnel, c'est-à-dire comme une sensation désagréable. Le principe de plaisir se laisse ainsi déduire du principe de constance. En réalité, le principe de constance lui-même nous a été révélé par les faits mêmes qui nous ont imposé le principe de plaisir. La discussion ultérieure nous montrera que la tendance de l'appareil psychique dont il s'agit ici représente un cas spécial du principe de Fechner, c'est-à-dire de la tendance à la stabilité à laquelle il rattache les sensations de plaisir et de déplaisir. Mais est-il bien exact de parler du rôle prédominant du principe de plaisir dans l'évolution des processus psychiques ? S'il en était ainsi, l'énorme majorité de nos processus psychiques devraient être accompagnés de plaisir ou conduire au plaisir, alors que la plupart de nos expériences sont en contradiction flagrante avec cette conclusion. Aussi sommes-nous obligés d'admettre qu'une forte tendance à se conformer au principe de plaisir est inhérente à l'âme, mais que certaines forces et circonstances s'opposent à cette tendance, si bien que le résultat final peut bien être pas toujours conforme au principe de plaisir. Voici ce que dit à ce propos Fechner. Mais la tendance au but ne signifie pas toujours la réalisation du but, cette réalisation ne pouvant en général s'opérer que par des approximations.